Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Money Time.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur Money Time, l'émission sportive de Prune sur le 92 FM et sur le www.prune.net partout sur la planète. Alors ce soir, Money Time, saison 5, épisode 33, avec autour de la table nos chroniqueurs pour débattre de l'actualité de la semaine. Et on commence avec toi, mon Charles, comment que tu vas bien ?
Bah bonjour à tous, bonsoir à tous et puis bonjour Mathieu, ça va très bien et j'en profite pour faire un gros big up à Irène qui avait une compétition de patinage, de patin, donc à roulette. C'est une compétition régionale, elle a remporté notamment deux des trois catégories que sont le pas, la danse et le free skating, donc je tenais à la féliciter.
Bah, félicitations à elle, on l'embrasse. À côté de toi c'est Jérém, salut mon pote.
Salut et bonsoir à toutes et à toutes et bonne émission.
Et j'oublie pas Jean-Marc.
Salut, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et ben moi, mon gros big up sera pour l'Olympique Lyonnais féminin qui remporte son 8e titre de champion de Champions League.
Champion ouais. D'Europe. Applaudi
c'est
par Pelé.
Impressionnant. Et ben on en parlera dans notre rubrique football, le Prune Football Club, avec tout le reste de l'actualité footballistique. Et on y va tout de suite.
Money Time. Le Prune Football Club. FC Nantes, Ligue 1, Champions League, foot étranger et bien plus encore. Le Prune Football Club. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et donc on parle de football et honneur aux dames. Jean-Marc, on va parler du FC Nantes féminin qui ne montera pas en Division 1.
Tout à fait, elles auront été en D1 pendant une petite minute, de la 18e à la 19e, puisque c'est Océane Ringenbar qui avait ouvert le score à la 18e, mais à la 19e minute, on a eu une nouvelle qui venait du stade Océane, et c'était Le Havre qui ouvrait le score. Donc malheureusement, malgré une belle performance des Nantaises à Bollaert, victoire 4-1, grâce aussi à Thelma Héninger et un doublé de Julie Pian qui ne sera sûrement pas là la saison prochaine, eh bien Nantes devra rester une saison de plus en D2 féminine. Dommage, une saison presque parfaite puisqu'elles auront été éliminées en demi-finale de Coupe de France à Yzeure et qu'elles termineront à un petit point de la montée. Donc quand même bravo à elles. Mais je vous laisse imaginer toute la déception.
C'est sûr, on imagine bien. Et au point de vue effectif, il sera renouvelé pour l'année prochaine ou ce sera...
Oui, il va être augmenté en qualité. Est-ce que Mathieu Ricoul sera toujours entraîneur? On ne sait pas. Il mérite parce qu'il a fait un super job. Mais on ne sait pas du tout. Donc oui, je pense qu'il y aura d'autres joueuses qui vont arriver. Et puis l'attrait du FC Nantes va monter un petit peu avec le parcours de cette année. Donc... plus les jeunes joueuses qui commencent à arriver, qui sont très très prometteuses. Hein. L'équipe qui mettait des volées, même aux garçons, en U13, elle battait même les garçons. C'est une drôle d'histoire, puisque cette équipe-là, les équipes féminines ne voulaient plus jouer contre elles. Donc ces joueuses-là arrivant dans l'équipe première, ça devrait être intéressant.
D'accord.
Ouais, et on l'a dit, donc bonne nouvelle pour le football français puisque l'Olympique Lyonnais, les féminines de l'OL, 8e Champions League, record encore et encore.
Un match magnifique avec dès la 5e minute une frappe de la meilleure frappeuse je dirais au monde, hein. Amandine Henry frappe des 25 mètres après avoir récupéré un ballon, c'est dans la lucarne, c'est magique.
Ah, c'est un but, mais qui restera dans la légende. Hein, parce que déjà l'action défensive, le tag pour récupérer le ballon, puis après cette frappe des 25 mètres décalée côté gauche, et puis là enroulée flottante dans les lucarnes, imparable. Même si la gardienne barcelonaise se détend bien, mais ça a été magique à regarder.
Et puis derrière, 22e, Eternel Ada Egerberg sur un superbe centre de Selma Bacha, doubler la mise avant que Macario sur un superbe jeu à 3, techniquement, logiquement presque plus du style barcelonais, on va dire. C'est Macario qui n'avait plus qu'à la mettre au fond. Derrière, Putellas, la meilleure joueuse du monde, hein, mais elle va peut-être pas le rester d'ailleurs. Parvenait à réduire le score et puis la meilleure défenseuse du monde,
Wendy Renard,
qui n'empêchera à chaque fois les Barcelonaises, il y a même la barre qui empêchera Barcelone de revenir.
Donc c'est vraiment là, on a le droit à le retour de l'Olympique Lyonnais après l'élimination l'année dernière en quart de finale face au PSG et même le titre perdu face au PSG l'année dernière. Là c'est le retour de l'Olympique Lyonnais au premier plan, hein, du football mondial, meilleur club sans doute féminin actuellement au monde. Et surtout que, à mon avis, ça continue parce que Jean-Michel Aulas continue d'investir. On a appris notamment l'arrivée de Sarah Dabritz, la milieu centre du Paris Saint-Germain, capitaine du Paris Saint-Germain, l'allemande de 26 ans. Qui arrive du coup l'année prochaine à Lyon, donc Lyon continue de se renforcer, et c'est-à-dire que Lyon va continuer sans doute encore une fois de continuer à remporter peut-être des titres, et on espère encore une nouvelle Ligue des Champions l'année prochaine. On verra ça évidemment l'année prochaine.
Lyon qui est quand même invaincu en Europe, la seule équipe qui arrive à la battre depuis 10 ans, c'est le PSG.
C'est ça.
C'est la seule équipe, Barcelone n'a jamais battu Lyon,
Wolfsburg,
Arsenal, Chelsea non plus, City non plus.
Donc, ce qui montre toute la force du football féminin français. Quoi.
Exactement. Oui, puisque ces deux équipes-là sont au-dessus, on aurait bien voulu les avoir la saison prochaine. On attendra avant de les voir ici. Et ce qui fait plaisir aussi, c'est de voir des matchs qui se jouent de plus en plus avec des spectateurs et des grands stades pour du foot féminin. C'est très bien. Mmh.
Ça commence à prendre de l'ampleur parce qu'il y a le foot féminin actuellement évolue dans un très bon sens avec des investissements, beaucoup plus de professionnalisme qu'avant. On sent vraiment la détermination à faire monter le foot féminin et c'est très bien. Et aujourd'hui, on voit des matchs de très grande qualité. Enfin, quand on voit les matchs d'Olympique Lyonnais, c'est du très grand niveau. Et personnellement, j'aime regarder ça.
Non, c'est clair. Et puis
ça me fait plaisir parce que c'est aussi un peu mon club. Donc
voilà. Et puis ça prouve aussi que malgré ce que pensent certains journalistes qui se disent bon, c'est parce qu'il n'y a pas les grands clubs, Lyon montre que malgré l'arrivée de l'investissement d'argent, beaucoup d'argent des grands clubs, ils restent devant, ils restent avec une longueur d'avance. Et tant qu'ils ne croisent pas le PSG sur leur route, ils vont au bout, quoi. Et puis quand on voit une joueuse comme Wendy Renard, le génie Le Sommer, c'est des joueuses qui en sont à 10 finales, 8 titres gagnés sur 10, c'est énorme.
C'est incroyable.
Donc bravo à elles et on leur souhaite le meilleur.
Des Lyonnaises historiques.
Pour la saison prochaine, et on espère que les Nantaises les rejoindront bientôt.
Allez, on parle des garçons maintenant. Dernière journée de Ligue 1. On va pouvoir faire le bilan de la saison. Le Paris Saint-Germain est champion.
C'est un champion qui était déjà champion depuis quelques semaines et ils ont bonifié ce titre-là. Une belle victoire contre Maître, 5-0, triplé de Mbappé et une passe décisive de Di Maria et un dernier but de Di Maria pour ses adieux au Parc.
Qui avait un double objectif, Mbappé, aller chercher le titre de meilleur buteur et celui de meilleur passeur.
Qui l'a eu.
Historique dans notre championnat. Oui. C'est la première fois qu'un joueur obtient le titre de meilleur passeur et meilleur buteur au cours d'une même saison dans l'histoire de la Ligue 1. Donc ça montre le niveau du garçon et les bienfaits qu'il apporte au football français et en Ligue 1.
Et qui continuera à apporter grâce à sa
nouvelle signature jusqu'en 2025. Voilà. Je vais vous dire franchement, je pense qu'il va faire la saison prochaine, celle d'après, et qu'il partira au bout de 2 ans.
C'est possible. À voir ce qui peut se passer, on ne sait pas ce qui va se passer.
Il a dit que lui
est resté parce qu'il a senti qu'il y avait un nouveau projet, un vrai projet qui se construisait. Jamais ça se passe très bien au Paris Saint-Germain sur les 2 prochaines saisons, que l'objectif de gagner avec des champions peut-être sera atteint, un club mieux construit, avec notamment du coup les départs de Leonardo. C'est-à-dire que là, c'est peut-être un club avec un club mieux structuré, voilà. Dans le sens où c'est moins bling-bling, moins one-man show, mais plus vrai club et tout. Un peu comme le Real Madrid ou la Juventus,
Et du coup, en parlant du départ de Leonardo, il y a la probable arrivée de Luis Campos qui a fait des très bons résultats
à Monaco
et aussi à Lille. Du coup, on peut que espérer que pour Paris ça puisse se maintenir. Et aussi, on l'annonce en petit peu parler dans la shortlist, un retour en Ligue 1 de Sergio Conceição qui pourrait entraîner Paris.
Oui, ça peut au niveau de l'entraîneur, oui, après il y a plusieurs noms qui apparaissent. Hein. Bon, après, voilà, mais moi je pense que déjà, ils vont essayer un autre projet. Donc peut-être qu'ils vont y arriver, je leur souhaite. Hein. Je souhaite à Mbappé d'être le premier de leur amener la première Ligue des Champions. Mais je pense qu'une fois que... En fait, il y a aussi le truc qu'on lui a reproché que s'il partait cette saison, ça ne rapporterait pas un rond au PSG. Donc je pense que ça a aussi joué dans la balance.
Mbappé, c'est aussi l'image du Paris Saint-Germain. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle de PSG, on parle de Mbappé. Aujourd'hui, c'est l'image du Paris Saint-Germain... on va dire au plan mondial, même si aussi Neymar, Messi qui viennent s'ajouter à tout ça et qui rapportent aussi beaucoup. Mais c'est vrai qu'il aurait peut-être eu moins cette... même si ça a été, je pense que c'est son rêve, et un jour il est sans doute au Real, je pense.
Oh, je mais pense, ouais. Là, pour l'instant, ils font la gueule, le Real, mais ça va pas durer longtemps.
Même la Ligue a porté plainte contre le PSG.
Bon. Oui, alors, Javier Tebas... Hein,
voilà, hein.
Lui, quand c'était Tebas,
tu me les Tebas très fort. Hein.
Mais voilà,
j'ai tout un tas de chansons pour vous expliquer à quel point j'adore ce type.
S'il était allé au Real Madrid, peut-être que dans l'historique, effectivement, on a aujourd'hui, quand tu penses Real Madrid, tu penseras pas forcément à Mbappé dans l'histoire. C'est pas lui qui, c'est pas Mbappé égal Real Madrid. Genre s'il était arrivé l'année, les années d'après. Je pense qu'aujourd'hui, il est l'image du Paris Saint-Germain et je pense qu'il fait bien dans un sens aussi de c'est quand même le fait qu'il soit français aussi, et ça c'est toujours bien pour la Ligue 1 et pour son image, je pense, d'être resté au Paris Saint-Germain.
On verra bien
après.
Et du coup, pour la Ligue 1, Marseille qui finit deuxième devant Monaco qui pendant tout le match était deuxième, et grâce à un dernier but tout en fin de match à 96e minute
de Lens,
Ignatius Ganago.
Voilà, Ganago qui punit Monaco, Monaco restera troisième à nouveau et qui va à nouveau débuter les barrages.
Les tours préliminaires. Avec les barrages possiblement.
Du coup, Rennes qualifié en Ligue Europa grâce à son match nul en tout un match grâce à la tête de Serro Guirassy qui accompagnera Nantes du coup en Europa League. Nice qui passera en Europa Conference League en barrage du coup grâce à un triplé de Delors. Et les grands perdants, je pense, pour moi, de la Ligue 1, c'est Strasbourg et Lens qui avaient un très beau jeu collectif très soudé, qui perdent des matchs pour l'Europe.
Strasbourg a fait un peu le Lens de l'année dernière, où Lens méritait sa place en Ligue Europa, enfin, du moins en Coupe d'Europe, et finalement n'est pas y arrivé. Et finalement, cette année, du coup, Strasbourg, eux, finissent 6e, mais malheureusement, ne pourront pas profiter d'aller possiblement en Coupe d'Europe suite à cette défaite. C'est un petit peu aussi à cause du FC Nantes qui vient gagner la Coupe de France, et c'est pas le, ça aurait été le Paris Saint-Germain ou Rennes, ils auraient pu être qualifiés pour les tours barrages ou tours préliminaires de Ligue Europa Conférence, mais c'est vraiment dommage pour Strasbourg. Ça aurait été beau de les voir en Coupe d'Europe avec l'ambiance à la Méno, ça aurait été quelque chose.
Ça aurait été ou leur jeu de
ça sera pour les prochaines années, voilà. c'est pas grave. Et du coup, ce qu'on fait comme bilan, Paris et Marseille en Ligue des Champions, Monaco au tour préliminaire. Attention Monaco, faudra pas se craquer, ça leur est déjà arrivé de rater le tour préliminaire
l'année dernière.
Exactement. Rennes qu'on retrouve avec Nantes en Europa League, en espérant que ça soit l'affiche de la finale. Hein, on le souhaite tous. Au moins, on aurait un club français qui gagnerait l'Europa League.
C'est ça.
J'ai ma petite préférence. Jérémy en a une petite autre. Et puis, Nice a sa place en Europa League Conférence.
S'il passe les barrages.
Si, il passe les barrages. Exactement. Enfin, ils sont au barrage l'Europa League Conférence.
Généralement, tu affrontes des clubs assez moins huppés que Nice. Enfin, Nice doit se qualifier. Ouais.
J'espère pour
les Europa Conférence.
J'espère pour eux, parce que si tu prétends à exister en Europe ou dans le championnat de France, et il faut déjà exister en Europa League Conférence.
C'est ça. Sinon, en Serie A, le AC Milan redevient champion.
On peut parler du relégué d'abord.
Relégué, oui.
En Ligue 1. Oui. Voilà, ça fera plaisir aux Nantais. Les Bordelais qui sont malheureusement derniers de Ligue 1 et du coup disputeront la Ligue de Bécaté l'année prochaine.
Ce n'est pas malheureusement, c'est la fatalité
logique. Et qui seront rejoints par Metz, qui eux, malheureusement. Plus mérité de rester un peu en Ligue 1, vu leur bon niveau de jeu global.
Oui, surtout les deux derniers matchs où ils avaient réussi à gagner, notamment face à l'Olympique Lyonnais et tout, ils avaient réussi à passer 18e, mais malheureusement la défaite face au Paris Saint-Germain 5-0 sur la dernière journée
on savait la défaite.
Et surtout le match nul de Saint-Etienne.
Voilà, c'est surtout ça, c'est qu'ils ont prié toute la fin de match entre Nantes et Saint-Etienne. D'ailleurs, ils étaient plus passionnés par le match Nantes-Saint-Etienne que PSG-Metz. Et puis, c'était la 79e que Romain Amouma, tiens, ce joueur-là, il m'intéresse, moi je le prendrais bien pour Nantes, parvient à égaliser et permet à Saint-Étienne de jouer les barrages. Attention, ça ne sera pas fait, ils vont affronter
Auxerre,
la JOCR de Jean-Marc Furlan.
Spécialiste de monter en Ligue 1, notamment avec Brest, il l'a fait.
Exactement.
Il a eu 3 aussi.
Et puis, il a un joueur qui est important dans son effectif, puisqu'il était monté avec eux avec Brest, c'est Charbonnier.
Gaëtan Charbonnier.
Le serial buteur.
Très bon buteur.
Excellent.
Donc, je pense que le match... Alors, le seul truc, voilà, c'est sur le scénario où les gens gueulent un petit peu, puisque le match retour aura lieu à Geoffroy Guichard, mais c'est peut-être bien aussi de prendre de l'avance dès le départ pour Auxerre et de gagner.
On sait qu'ils sont des très bons joueurs. On pense notamment à tout ce qui, enfin, notamment Gaëtan Charbonnier. Bah, là, il a récupéré plusieurs joueurs de Brest qu'il avait réussi à faire monter, Mathias Sautret, tous ces joueurs-là.
Exactement.
Donc ça va être intéressant. Et si Auxerre, au vu de leur niveau de jeu cette année, passe des Saint-Etienne qui malheureusement n'est pas forcément aujourd'hui en odeur de santé, mais du coup voilà, ça va être en tout cas une belle affrontation aller-retour à voir. Pour voir qui va gagner et monter finalement ou rester en Ligue 1.
Tout à fait.
Exactement.
Du coup, passons aux autres bilans européens des qualifiés et montés. En Serie A, c'est l'AC Milan qui est champion après 11 ans
sans titre, après le titre de l'Inter et grâce à un certain Olivier Giroud, auteur des deux premiers buts. Ouais.
Et leur nouveau maestro du milieu de terrain, Sandro Tonali.
Ah oui, exactement. Excellent. L'ancien milieu d'Empoli, encore une fois, excellent.
C'est Franck Kessié qui marque le troisième but qui permet au Milan AC de gagner 3-0 sur le terrain de Sassuolo.
Et Giroud qui aura très bien répondu sur le terrain juste après l'annonce finalement de l'équipe de la liste de Didier Deschamps pour la Ligue des Nations.
Donc la force de caractère de ce monsieur-là. Et
grosse force de caractère.
Nouveau titre, hein, il a déjà gagné en France, en Angleterre et du coup en Italie.
C'est ça. Et Pied de Nez, il y a un an et demi, il devait rejoindre l'Inter pendant l'hiver. Il a prolongé à Chelsea et finalement il finit chez Rivo et qui finit champion.
Il enchaîne là, Ligue des Champions,
Europa League aussi.
Europa League, il avait gagné aussi la FA Cup. Là, il avait gagné le titre, notamment avec Arsenal. Enfin, il a vraiment beaucoup gagné actuellement et surtout dernièrement. Donc ça montre vraiment les qualités du joueur. Ils sont encore exceptionnels pour son âge et pour son. Alors qu'on disait qu'il était fini, quoi.
Il a été remplacé pendant le match vers la 70e par un certain Zlatan Ibrahimovic. Tu vois, il a mis Zlatan sur le banc. Donc
ça fait une belle moyenne d'âge en attaque quand même.
Coup deuxième, c'est l'Inter qui finit à 2 points. Naples qui finit juste derrière à 7 points, il me semble. Ouais. Et la Juve qui termine le peloton pour la Champions League. Après, c'est suivi de près en Europa League par la Lazio et la Roma. Les deux clubs de Rome qui sont en Europe.
Pour attirer tous les deux d'ailleurs, Lazio et Rome.
Donc deux rivaux contre deux rivaux, c'est pas mal.
La Fiorentina, ça sera pour l'OGC Nice en Europa League Conférence et les relégués. Cagliari, le club sarde, le Genoa, le plus vieux club d'Italie, et Venise.
On
s'y attendait un petit peu pour Venise. C'est la Salernitana de Franck Ribéry qui se sauve.
Et pour les promus, pour l'instant, c'est Lecce et Cremonese. Qui sont directement qualifiés. Et là, il reste un match de barrage entre Pizze et Monza. Monza qui est le club de Savio Berlusconi.
Oui, exactement. Oui. Depuis qu'il avait racheté Monza, depuis qu'il avait été obligé de vendre le Milan AC. Voilà. Évidemment, Monza, le club de la ville de Ferrari.
Allez, en Angleterre, plus de suspense, on connaît le champion.
Exactement, on a le droit à une dernière journée
de fou,
complètement fofolle, avec notamment le duel à distance entre Manchester City et Liverpool. City qui recevait Aston Villa, on se pensait à une formalité pour les Citizens.
Alors, que nenni. Oui, parce que c'était entraîné par un certain Steven Gerrard, la légende du Liverpool FC, et il a su motiver ses joueurs. Et Manchester l'a payé cash, si vous permettez.
Excellent.
Puisque c'est Cash qui va ouvrir le score sur la première occasion des Villans. Les Villans qui vont mener 2-0.
Suite à un deuxième but de Philippe Coutinho, l'ancien Reds lui aussi. Donc, il y avait une histoire de Liverpool à City. Et finalement, 75e minute de jeu.
Retournement de situation.
Gundogan réduit le score. Une minute après, Rodri égalise. Et 3 minutes après, Gundogan vient marquer le deuxième but. Pour lui, résultat 3-2.
Qui crucifie à celui-là et les Reds en même temps.
Reds qui sont imposés chez eux 3-1 face à Wolverhampton.
Ah oui, mais alors que ça a été difficile, puisque c'est les loups qui ont ouvert le score.
Pedro Neto, le
Pedro
Portugais.
Neto, magnifique, sur une magnifique contre-attaque lancée par le gardien Felipe Sarr.
C'est Rosessa.
Rosessa, pardon. Et puis, Liverpool qui mettra tellement de temps, parce qu'ils vont égaliser par Sané en première mi-temps.
On reprend l'avantage par Mané, mais but annulé pour avoir enjeu par la barre.
Oui, c'est logique, refus logique. Hein.
Ouais.
Ils égalisent par Sadio Mané, je l'ai dit à l'envers, 6 minutes après. Et puis, ils n'auront jamais le titre en main, puisqu'il a fallu attendre.
C'est ça, c'est que. Même que quand City est dominé,
il y a des échos juste différenciés derrière à différents buts.
Il a fallu attendre que Manchester City mène pour que Liverpool prenne la marque et puis donc
par
finalement
Mossala,
c'était déjà fini.
Puis Andy Robertson.
Pour mes amis supporters de Liverpool, il ne faut pas avoir de regrets.
Oui, de toute façon, voilà, à ce moment-là, vu que City a gagné dans tous les cas, ça, c'est la victoire est là. Mais en tout cas, ça se voit encore un titre encore serré entre City et Liverpool, hein, encore seulement un point d'écart. On se souvient qu'il y a deux ans, c'était en 2020, c'était aussi, en 2019, c'était aussi City. 2019, c'était City qui avait remporté le titre à seulement aussi un point face à Liverpool. Ouais. Vraiment, c'est pour l'instant, sur les cinq dernières années, on a le droit à City-Liverpool qui se battait. City a alors remporté 4 fois.
Duel.
Mais encore, c'est encore une fois un très gros duel entre les deux gros clubs actuellement de ce championnat d'Angleterre.
Le troisième, Chelsea, a battu Watford pour son dernier match pour s'assurer. Alors, c'était fait, je crois, la troisième place. Et puis, pour assurer Watford, son voisin londonien, qu'il allait redescendre en Division 1. Arsenal n'a pas réussi, enfin, a gagné 5-1 face à Everton. Everton qui est sauvé depuis l'avant-dernière journée. Mais dans le même temps, Tottenham a été gagné 5-0 à Norwich. Donc victoire qui permet à Tottenham de finir 4e devant Arsenal 5e. Manchester United 6e après une défaite à Crystal Palace à Selhurst Park.
Et West Ham qui ferme la marche, ils seront en Europa League. Enfin,
exactement.
En Europa Conference League.
Et la grosse surprise, c'est tant mieux pour eux, c'est la victoire de Leeds à Londres chez Brentford 2-1 qui leur assure d'être sauvés.
Le maintien.
Bravo.
C'est Burnley qui, du coup, est relégué. Watford, Norwich, relégué. Et en Championship, on a le droit à trois montées, trois belles montées.
Fulham
pour l'instant,
qui monte.
Fulham qui remonte. Bournemouth qui revient fort. Et pour les finales des barrages, c'est Huddersfield qui jouera contre Nottingham Forest, autre club historique de l'Angleterre qui pourrait
remonter. Double vainqueur de la Champions League 79-80.
Voilà. Exactement. Nottingham qui était au bout du bout dans son match contre Sheffield United pour arracher la place en finale.
Grâce à Brice Samba, l'ancien joueur
exactement,
de Marseille.
Exactement, Brice Samba.
De Caen, qui a fait un match énorme de bout en bout sur
exactement, Brice Samba, absolument magique, sous la série de Terobus, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça.
Et puis, ça sera la finale d'accession, c'est samedi prochain à Wembley.
Tout à fait. Et petite info pour la Championship, le retour de Sunderland, autre club historique d'Angleterre, qui a, après un gros passage à vide, a aussi remonté. Et Cocorico, c'est Louis Dreyfus, le fils Kirill Louis Dreyfus, qui a repris ça en main depuis deux ans et demi, et Sunderland a réussi à se maintenir comme il faut.
Ça fait plaisir d'avoir le club historique comme Sunderland revenir déjà en Championship après les fameuses tragiques double descente
en D4
de suite. En Détroit, non, ils étaient que en Détroit.
Ouais, Détroit.
C'était en Détroit, donc ils avaient enchaîné il y a 3-4 ans deux descentes d'affilée de Première Ligue, puis après Première Ligue à Championship à Ligue 1, et là la remontée va leur faire du bien à Sunderland.
C'est ça.
L'Allemagne c'était déjà fait, si je dis pas de bêtises.
C'est sauf pour les Coupes d'Europe où du coup là on avait encore un doute, et finalement on a les résultats.
Et ce qui est historique, c'est que pour la première fois un pays qualifiera 8 clubs de son pays en Europe.
Exactement, parce qu'on aura le droit en Ligue des Champions, on aura le droit 5 clubs avec le Bayern qui est champion, Dortmund, Leverkusen et Leipzig par le championnat, et Francfort gagnant.
C'est ce que j'allais dire, donc Francfort qui a gagné la Ligue Europa à Séville dans la semaine face aux Rangers.
Très beau match
au tir au but
des deux équipes.
Une coupe que Francfort avait déjà gagnée, c'était il y a 47 ans, je crois.
44 ans.
44 ans, pardon.
44, le département de la Loire-Atlantique.
Exactement, pardon, 40, j'aurais dû le retenir. Donc bravo à Francfort, hein, nouveau club de M. Vincent.
Où jouera Colomagné l'année prochaine, donc Ligue des Champions Colomagné.
Et du coup, en Ligue Europa, sera Fribourg 5e et Union Berlin qui, grâce à la victoire de Leipzig en Coupe d'Allemagne, qualifie Union Berlin en Ligue Europa.
Peut-être Union Berlin.
Très content pour Union.
Ouais.
Oui, voilà, moi j'ai une petite idée du groupe, c'est un peu magique quoi, ce ne sera pas facile mais...
United, AS Rome, Union Berlin,
et
voilà.
Pour l'Europa Conférence, c'est Cologne qui sera en barrage de l'Europa Conférence.
Exactement.
Fribourg, du coup, comme tu as dit, qualifié en Ligue Europa.
Cologne, le club d'Anthony Modeste, le meilleur buteur français d'Allemagne.
Oui, avec 20 buts, bravo à lui, et dont 10 de la tête. Pour les relégués, je vous l'avais dit l'autre fois, c'est Arminia Bielefeld et Greuther-Furt. Et puis c'est le Hertha Berlin, l'autre club de Berlin qui jouera
les barrages
d'accession.
Le premier match, ils ont perdu 1-0.
Ah ben voilà,
Hambourg a gagné 1-0 du coup chez eux, enfin à l'extérieur, donc au Hertha 1-0. Et du coup le match retour, c'est ce soir entre toujours les mêmes équipes, hein, ça change pas. Et là on aura le droit, on aura le dénouement final pour savoir si Hambourg, club historique, montera en
qui rejoint. On vous l'avait dit la semaine dernière, Schalke 04, l'équipe de Gelsenkirchen et le Werder de Brême. Donc on peut avoir les trois grosses équipes. Au niveau supporter, calcul, mais c'est 62 plus 55 plus le Werder, je crois que c'est 48 000. C'est un nombre de supporters qui remonte d'un coup. Ça va être violent.
Ça va faire du bruit en Allemagne.
Ça faisait déjà du bruit, mais là, ça va être encore plus de bruit. Oktoberfest va se fêter tous les week-ends. Là.
Exactement, la bière va couler à flot dans les stades.
Pour finir sur la page foot, petit tour vite fait en Espagne, où le champion, c'est le Real, suivi du Barça, l'Atlético et de Séville. En Europa League, c'est le Betis et la Real Sociedad. Et en Europa Conference League, c'est Villarreal qui est qualifié. Et voilà. Pour les relégués, c'est Levante, Alavés et Grenade.
Et est-ce que tu as tous les ceux qui montent? On avait dit Almeria.
Almeria et Barthes, mais pour l'instant, il reste encore une journée. C'est pas sûr qu'ils montent directement, parce qu'ils peuvent
finir troisième. Il restait une journée, pardon.
Ça se joue ce week-end.
D'accord, bah ça va être intéressant à suivre.
Voilà. Et sur l'agenda, il reste un match de foot cette semaine, c'est samedi. Ça sera la finale de la Champions League.
Il reste aussi la finale de l'Europa Conference League,
pardon,
entre le Feyenoord et l'AS Rome.
Voilà.
On verra bien.
Ça passionne moins que le Liverpool City de samedi.
Tu dis ça parce que t'as pas eu réussi à avoir de ticket à l'Airlines Albania Stadium où il n'y a que 20 000 places.
Non, et j'en ai pas non plus pour le Stade de France samedi. Bon, allez, on a été complet sur le foot. On passe au hand. C'est Hashtime.
Hashtime. Money Time. Toute l'actualité du HBC Nantes par notre bande d'experts. Débrief, info, interview. Hashtime. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et bien sûr, on parle du le HBC Nantes qui continue son duel à distance avec Aix. Les Nantais recevaient Cesson vendredi pour une victoire, Jérém.
C'est ça, les Nantais qui recevaient Cesson et qui ont plutôt bien performé dans ce match-là, qui ont fini par gagner sur un gros score 31-26, avec encore une fois un grand Emile Nielsen à plus de 10 arrêts, Emmerich Mine, Dragon, Pachpalbeck et Linus Persson finis à 5 buts, et bien sûr Valero qui a marqué aussi 4 buts. Mais malheureusement pour les Nantais, le duel se continue toujours entre Aix qui s'est imposé contre de 10 buts 39-29 contre East et Montpellier qui suit toujours
en embuscade,
en fauteur de trouble qui s'est imposé contre Limoges 33-29.
Paris toujours invaincu et toujours avec une série de victoires. Ça serait le record, hein. Il faudrait gagner. Jean-Marc, il reste combien de matchs si je dis pas de bêtises?
3-4.
Et un 30 sur 30, quoi.
Ouais, ça n'a jamais été fait.
Ça a été fait dans d'autres championnats, peut-être, non? En handball?
En Allemagne, je crois.
Ouais.
Oui, non, c'est pas ça. C'est que ce que je voulais vous dire, moi, c'est... Moi, je voulais vous parler de la Coupe de France qui aura lieu le 11 juin.
11 juin, voilà. Paris-Toulouse, Nantes-Paris.
Oui, pardon. Mais alors, Paris. Du coup, allez-y, dès 10h30 le matin, puisque la première finale, la finale départementale féminine, opposera Saint-Jean de Talaudière, dans le 42, la région de Saint-Étienne, au Handball Club de Sautron, club du département. Donc,
c'est ça.
Allez-y dès 10h30 pour voir la première finale. Et puis, évidemment, vous restez pour le dernier match, puisque ça sera Nantes et le Paris Saint-Germain. On rappellera que chez les féminines, ça sera Metz contre Besançon. Ça aura lieu à 18h45, puisque vous savez que toutes les finales ont lieu le jour même.
D'accord.
Allez, on passe aux filles, les Neptunes. Dernier match de championnat, c'était la réception de Toulon à Mangin-Beaulieu. Jérôme, tu y étais.
C'est bien ça, donc au dernier match des Neptunes... à Mangin avant et où ils ont inauguré l'association avec les
BBN.
Voilà, ça s'appellera l'Alliance Neptune.
Très bien.
Et du coup, très beau match des Nantaises qui à la mi-temps menait 19-15 malgré une bonne adversité et surtout une très grande Marine Dupuis qui a scoré à 5 fois pendant la mi-temps.
Marine Dupuis, Nantaise la saison prochaine.
Voilà, que j'ai eu au micro après. Et du coup, dans les mi-temps, les études ont pas mal déroulé pour finir le match à 35-29. Très belle fin de saison. Et très belle fin de saison pour l'anniversaire de Clara Vaxès que j'ai eu au micro.
Du coup, Clara, bon anniversaire.
Merci.
Du coup, quel est ton bilan de la saison pour toi?
Écoutez, ça a été un bilan très positif parce que j'ai beaucoup appris avec cette équipe. C'est une équipe vraiment très professionnelle avec des filles qui sont super. J'ai rencontré vraiment des filles en or qui m'ont beaucoup apporté dans mon handball. Donc je suis vraiment très très heureuse de cette saison.
Et du coup, et comment t'adaptes-tu entre la réserve et l'équipe pro à alterner? Comment
c'est des fois c'est un peu compliqué parce qu'en plus là j'ai pris le poste de demi-centre avec l'équipe pro alors qu'avec la réserve je suis demi-centre. Donc des fois c'est un peu compliqué de faire la transition mais ça s'est plutôt bien passé et je suis plutôt contente de ça quoi.
D'accord. Et sinon, quels sont tes objectifs pour la saison prochaine?
Alors bah c'est encore de plus progresser, de m'exprimer, d'avoir du temps de jeu à ce niveau-là et puis prendre du plaisir encore dans ce sport que j'adore.
Et penses-tu
Voilà pour l'analyse de Clara Vaxès.
Et du coup,
Une des belles surprises, Clara Vaxès, hein, avec voilà. Florian André, c'est avec Naïmi Ardouin et Oriane Ondono, vraiment les jeunes joueuses nantaises qui ont beaucoup apporté.
Clara, du coup, j'ai appris sur la fin du match en interne qu'elle allait signer à plein de cucs.
Oui, ça, on peut comprendre qu'on ne pourra pas garder tout le monde. Mais, ça,
mais du coup, on la garde pas, mais du coup, on a affronté ce match-là une nouvelle joueuse qui va beaucoup apporter au Neptune, c'est Marine Dupuis.
Du coup, quel sentiment as-tu de finir la saison avec Toulon et jouer contre ta future équipe?
Bah c'est vrai que c'est particulier, mais franchement, bah c'est une belle fin. Et voilà, je termine ici, je commence la prochaine saison ici, donc ça me fait plaisir. En plus, c'était franchement une belle ambiance et ça donne vraiment envie de commencer la prochaine.
D'accord. Et du coup, quels sont tes objectifs pour en venant à Nantes?
Apparemment, il y a de gros objectifs ici, donc franchement, bah, performer au maximum, moi personnellement, et aider au maximum l'équipe. Pour atteindre tous les objectifs, que ce soit en Coupe de France, en championnat, en Coupe d'Europe et puis gagner des titres. Hein.
C'est ça. Et voilà. Du coup, je pense qu'au vu de ta première mi-temps où tu as pas mal scoré, je pense que tu vas devenir un point fort des Neptunes et ne laisse pas une pression ou un chose qui va t'aider à aller de l'avant.
Non, pas forcément une pression, mais justement, ça donne envie parce que c'est vrai que à Toulon, il y avait une gestion, c'était plutôt 30 minutes chacune. Donc, c'est compliqué, surtout quand on est compétitrice. J'ai fait 30 premières minutes bonnes et j'aurais aimé jouer la deuxième mi-temps. Donc ça me donne envie de venir ici pour pouvoir jouer le maximum et performer au maximum. Et voilà.
C'est tout ce que je te souhaite et je te dis à bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Marine Dupuis, ailière gauche d'expérience, hein, 30 ans. Elle a commencé sa carrière à Besançon avant de rejoindre Toulon, donc elle va beaucoup apporter à l'aile gauche nantaise.
C'est ça. Et sinon, petit point sur la fin de saison chez les féminines. C'est Fleury qui est relégué et on assistera au retour de Saint-Amand-les-Eaux qui est champion et donc promu. Et Chambray, qui termine 6e et qui a un bon budget pour, le, pour, le, pour l'Europe, a demandé à la fédération.
Une wildcard.
Pour participer à la C2 malgré leur 6e place.
Ouais, c'est bien, c'est bien. Ça peut être pris en compte. Hein. Leur parcours cette année en Coupe d'Europe était tout à fait honorable. Donc,
ça serait mérité
pourquoi
pour
elle. Pourquoi pas, ce serait bien. Hein.
Je voulais qu'on revienne sur les quarts de finale de la Champions League masculine.
Exact, puisque le PSG et Montpellier n'ont pas fait mieux que Nantes dans leur coupe, puisqu'ils ont aussi été éliminés en Europa League. Un gros match. Alors, on se rappelle que Montpellier avait été battu de 3 buts chez
à
eux.
À la maison, oui.
Pas par
Kielce, pardon.
Et Kielce, qui est match retour à Kielce, Montpellier n'a pas existé.
Défaite 30-22.
Exactement, oui.
Ouais. Ça fait beaucoup.
Grosse défaite.
Et Paris qui avait partagé les points face à...
À Kiel.
Face à Kiel, à Paris 29-29, on y croyait...
30-30.
30-30, pardon. Ça. On y croyait, Paris a été devant une partie du temps, ils menaient 2 buts à la mi-temps, ils ont tout essayé, et puis la pression de l'aréna de Kiel de 11 000 places a fait le reste. Et victoire de à l'arraché d'un petit but. Ouais.
Comme disait but presque au buzzer. Ouais.
Comme disait Johnny, il suffisait d'une étincelle. Bah là, il aura suffi un but au PSG pour se qualifier. Malheureusement,
Kiel et Kiel C.
Même de 2 buts.
Kiel et Kiel C qui rejoignent le Barça.
Voilà. Exactement, on a le droit normalement.
Bah, même Final Four que l'année dernière.
Exactement, entre Barcelone, PSG, Veszprém et Kiel C.
Alors non, il n'y a plus Alborg, Jean-Marc, c'est pas le même.
Ah oui, non, bah, on a failli, pardon.
C'est Veszprém. Exactement, ça s'est joué entre Veszprém et Alborg.
Veszprém et Kiel C, qu'on rappelle défaite, que Nantes avait dérouillé l'année dernière, hein, en quart et en huitième de la compétition.
C'est
donc,
pour ça qu'on va y revenir pour les dérouiller.
C'est cela même. Bon,
on l'a gagné.
On était complet sur le handball. On va parler du reste de l'actualité sportive, pardon, avec Multizone.
Money time. Multizone, tout le reste de l'actualité sportive détaillé par la team. Multizone. Money time. Money time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on va démarrer avec les sports méca avec de la Formule 1.
Exactement, on était sur un nouveau circuit cette saison, c'était
de retour,
c'était sur le circuit de Barcelone en Espagne, et on a eu le droit encore une fois à une nouvelle victoire de Max Verstappen, la troisième d'affilée, la quatrième cette saison. Il aura su profiter effectivement, malheureusement pour Charles Leclerc, de son problème mécanique, alors qu'il était largement en tête de ce Grand Prix et allait se diriger facilement vers une victoire, mais environ du 30e tour. Charles Leclerc, problème mécanique, ouais, perte de puissance, casse moteur.
Casse de turbo pour Charles Leclerc, alors qu'il, comme tu dis, il menait, il avait hyper bien géré, et ses pneus et tout. Il avait une belle avance de dizaines de secondes.
Il avait tous les trois essais libres en tête.
Et puis, la perte totale de puissance. Voilà. Et il fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, il est rentré au garage, malheureusement. Vraiment, franchement, parce que elle était pour lui.
C'est vraiment dommage pour lui.
Et pour Ferrari. Car dans le même temps, Carlos Sainz, lui, s'est sorti dans les premiers tours dans le bac à gravier du virage numéro 5, si je crois bien.
Le même virage que Verstappen quelques tours
juste
plus tard.
Quelques tours après, mais lui, c'est un peu mieux géré, du coup, il a moins perdu de temps. Il ressort, il est 11e, résultat, il ne peut finir que 5e. Juste derrière, du coup, finalement, Verstappen, Perez, Russell et du coup Sainz 4e. Hamilton lui finira 5e, mais du coup forcément la Scuderia Ferrari qui perd énormément de terrain sur la Red Bull. Résultat au classement constructeur, on a le droit à Red Bull à 195 points, deuxième Ferrari à 169, 26 points de retard, c'est alors qu'ils étaient en tête juste avant ce Grand Prix là. Et du côté du classement pilote, Verstappen reprend la tête à Leclerc, 110 points à 104. Verstappen mène 4 victoires à 2, mais évidemment c'est encore serré, et on se souviendra que le week-end prochain, ce week-end qui arrive, on y sera à Monaco. Est-ce que Charles Leclerc va enfin finir?
Moi, je prie pour qu'il gagne, parce que oui, il a jamais fini une course à Monaco.
Même pour le Grand Prix historique, quand est-ce qu'il avait conduit la dernièrement la fameuse Formule 1 Ferrari de Niki Lauda. À l'époque, il l'a mis. Il s'est planté. Rascas, il s'est planté. Donc là, on espère surtout que c'est une Ferrari qui est mieux dans les virages lents, dans les virages rapides. Elle est meilleure que la Red Bull. Il y a moins de lignes droites forcément sur Monaco, donc on aura le droit sans doute à une Ferrari très forte. On espère que la Charles Leclerc pourra faire le boulot et que sa Ferrari tiendra le coup.
Ah, puis t'imagines l'hymne monégasque à Monaco devant le prince Albert. Le prince Albert, il serait tellement heureux.
Il serait fou.
C'est l'image et
l'image. On va prier pour Charles.
C'est, je vous rappelle que jamais aucun pilote monégasque n'a jamais remporté le Grand Prix de Monaco.
Allez, un mot de WRC. On
juste
était
avant,
on
voulait parler des Alpines qui ont fait une très belle remontée, notamment alors que sur la grille, elles étaient loin. Esteban Ocon était 12e et Fernando Alonso est lui parti dernier. On aura le droit quand même à une belle fin avec une 7e place pour Esteban Ocon et une 9e place pour Fernando Alonso. Donc encore des bons points pour Alpine alors qu'ils étaient loin, donc ça montre la performance de Alpine qui est plutôt performante. Qui manque encore un petit truc pour être au-dessus pourquoi pas se rapprocher des Mercedes et tout, mais en tout cas voilà, donc on sent que les Alpines se rapprochent des meilleurs teams et du coup prennent encore de bons points.
Et le résultat de Pierre Gasly aussi?
Il est loin, il est 14e ou 15e à la fin, ça a été un Grand Prix très difficile pour lui et sa AlphaTauri.
Ouais, pas de points pour Gasly. En WRC, on était au Portugal avec les deux Seb, malheureusement deux abandons pour nos deux champions.
Malheureusement, ouais.
Alors qu'ils étaient plutôt bien, Seb, oui. Seb Loeb était en tête quand il a pris un muret.
Mais malheureusement, ça n'a pas été très bon à la fin. On a vu Sébastien Loeb qui a pris un muret, crevaison notamment pour Sébastien Ogier. Résultat, les deux abandonnent
dès le vendredi, je crois.
Exactement, donc c'est compliqué. Le premier français, c'est Pierre-Louis Loubet qui ne finit que 7e. La victoire revient au finlandais Kalle Rovenpara devant Elfyn Evans et Dani Sordo. Résultat, 3e victoire d'affilée pour Rovenpara qui s'envole au classement pilote. Là, largement avec 106 points devant Thierry Neuville, 60 points et Katsuta, le japonais qui compte le podium, 38 points, mais qui est
sur
très loin.
Toyota.
Exactement, et du coup, Toyota d'ailleurs qui du coup domine normalement effectivement aussi ce classement constructeur pour l'instant.
Allez, on change de surface, on parle de tennis, de terre battue, on est à Roland depuis hier.
Exactement, Roland Garros, c'est reparti, la fameuse quinzaine française qui nous fait tant plaisir au niveau du tennis, la Locre est de retour. Avec de retour, on aura le droit à quelques Français, notamment des Françaises qui ont brillé notamment aujourd'hui.
Quel plaisir, il était 15h04 quand le public s'est mis à scander Paris, Paris, Paris.
Ici c'est Paris, Paris est magique, tout ce que vous voulez. Diane Paris qui remporte sa deuxième victoire à Paris. Elle avait déjà remporté un premier tour en 2019, mais cette fois c'est quand même d'un autre standing. C'est Barbora Krejcikova, deuxième mondiale et notamment récente
du titre de Roland Garros.
De Roland Garros, elle qui reprenait la compétition aujourd'hui, donc elle n'a pas disputé encore de compétition sur terre battue, donc forcément c'était un peu plus compliqué, mais on a une belle victoire, une victoire en 3-7 avec 1-6, 6-2, 6-3. Que dire de mieux, c'est une belle victoire qui du coup affrontera une colombienne
oui.
Au prochain tour. Donc le terrain entre guillemets, elle a battu la deuxième mondiale, donc forcément le champ entre guillemets s'ouvre sur sa partie de tableau.
Et stupeur sur le châtrier, aujourd'hui 11 jabeurs éliminés.
Exactement, hier on a eu le droit à l'élimination de 11 jabeurs, récente vainqueur du Masterville de Madrid ou encore finaliste à Rome. Résultat,
faisait partie des favorites.
Grande favorite, annoncée finaliste face à Iga-Swiatek. L'autre grande favorite qui jouait elle aujourd'hui et qui a su se débarrasser de Tourenko 6-2, 6-0 facilement. Jabeur, elle perd 3-6, 7-6, 7-5 face à Linette, la polonaise. Donc c'est un gros coup dur pour la Tunisienne.
Les gros coups GRM pour Corentin Moutet.
Corentin Moutet, oui, qui a affronté Wawrinka aujourd'hui et il a battu en 4-7, 2-6, 6-3, 7-6, 6-3. Et par contre, chance ou pas chance, il affrontera l'ogre Nadal au deuxième tour après.
Mais au moins, il sera sur le châtrier.
Ouais,
ça c'est sûr.
À la télé, c'est sûr.
Parce que Nadal, dans le même temps, c'est à peu près dans les mêmes heures, a remporté lui son premier tour face à Jordan Thompson, l'Australien, 6-2, 6-2, 6-2. Voilà, très régulier le Rafael Nadal.
Dans quel état physique il est?
Il est bien. Il s'entraîne bien. Il reprend bien. Alors forcément, c'est pas aussi comme ils veulent, mais pour un match de reprise, c'est très bon.
Et autre espagnol qui est en forme, c'est Alcaraz qui a fait qui a bien performé aussi pour se qualifier au prochain tour. J'ai pas les scores.
Exactement, il a battu Londero, l'Argentin, 6-4, 6-2, 5-0. Dans les autres gros favoris qui se sont qualifiés, on a le droit à Félix Auger-Aliassim, le Canadien, tête de série numéro 9, qui a dû batailler pour s'imposer face au Péruvien Vanillas. Il l'a remporté en 5-7, 2-6, 2-6, 6-1, 6-3, 6-3. Zverev s'est bien débarrassé de Hofner, l'Autrichien, 6-2, 6-4, 6-4. Isner a battu Quentin Alice, le premier Français qui était en lice. Il a perdu 7-6, 4-6, 7-6, 7-6, donc il a perdu 3-7 à chaque fois au tie-break. C'est un peu dommage, mais bon, face à Isner, gros serveur, c'est compliqué. Le Français qui avait remporté hier son match, son premier tour, c'est Grégoire Barrère qui avait battu le Japonais Taro Daniel 3-6, 6-2, 0-6, 6-3, 6-4. Non, ce n'est pas un numéro de téléphone. Et voilà, donc dans les gros scores qui arrivent, Djokovic notamment rentrera en lice ce soir à 20h45 face à Nishioka.
En prime time. C'est comme l'année dernière, c'est Amazon qui fait du prime
Amazon,
time.
Amazon, le prime time de la nuit, le dernier match en soirée, c'est pour Prime Video. Du côté des Françaises, on a le droit à deux autres qualifications pour le second tour. C'est celle de Elsa Jacquemot qui bat Watson, l'Anglaise, 6-3, 6-3. Et pour Léolia Jean-Jean, la qui a été, elle, arrivée ici par wildcard, qui bat Parisas Diaz, l'Espagnole, 6-4, 6-3. Donc déjà trois Françaises qualifiées au second tour. Ça se passe plutôt bien, sachant que du côté d'autres filles, c'est Mladenovic, Monet, Burel, Dodin et Tan ont été éliminés. Mais il reste encore Chloé Paquet, notamment, avec aussi Caroline Garça et Fiona Ferro, qui seront en lice demain, et Alizé Cornet, évidemment, aussi.
C'est parfait. Allez, on parle du Giro maintenant, bien sûr. C'est le cyclisme, deuxième semaine qui se termine avec un nouveau leader.
Exactement, nouveau leader. Il s'appelle Richard Carapaz, qui est en tête du classement du général. On a eu le droit à une très belle semaine, avec notamment qui commençait sur la dixième étape, une étape un peu de baroudeur, où c'était l'Érythréen Berman Guirmay qui s'imposait, le jeune, tout jeune, du coup, africain, qui du coup remportait cette première étape sur un Giro.
Quelle tristesse, quelques minutes plus tard.
Il doit abandonner.
Il a pris le bouchon dans l'œil et il a été obligé d'abandonner.
Au moment de célébrer, c'est dommage, lui qui commençait. Du coup, vous êtes comme.
Vidéo gag.
Très gros pour l'instant.
Mais bon, ça va, c'est pas si grave que ça.
Oui. Mais bon, ça comptera l'abandon. Il avait gagné quand même devant Mathieu Van Der Poel. La 11e étape est une étape plus de sprinter. Et on a le droit à Alberto Denez, l'Italien, qui s'est imposé notamment devant Gaviria, Consoni et Demar. Du coup, 12e étape, on a le droit à une bonne étape de baroudeur qui était imposée par. C'était devant Lorenzo Rota, le coureur de l'Avanti. C'est Oldani qui s'est imposé, le coureur de l'Androni Giocattoli. On a eu le droit notamment à la victoire, nouvelle victoire d'Arnaud Démare au sprint.
La 13e étape.
Il s'est imposé au sprint. Troisième victoire pour lui. Il conserve largement le maillot Chiclamen, le maillot du meilleur sprinter, avec 238 points. Il devance largement Marc Cavendish, qui est l'une des quatre, deuxième à 121 points. Arnaud Démare qui pour l'instant continue d'amasser des victoires, lui qui avait déjà fait ça l'année dernière.
4
victoires l'année dernière, donc fera-t-il mieux cette année?
Il est à 3, il peut encore en gagner.
Il peut en gagner au moins une.
Les nouvelles de Romain Bardet.
Malheureusement, Romain Bardet sur la 13e étape a dû abandonner, malade. C'est un gros coup dur pour lui, lui qui était parmi les trois gros favoris avec Jay Hindley et Richard Carapaz pour ce Giro. Il pouvait potentiellement viser la victoire. Mais malheureusement, malade, il a dû abandonner. C'est un gros coup dur pour le Français.
Et le même jour, notre... comment il s'appelle déjà? Aidez-moi.
Julien Alaphilippe.
Le coureur de chez Cofidis.
Guillaume Martin
a perdu 10 minutes.
Sur cette étape, ça a été compliqué, cette étape pour lui. Donc ça n'a pas été simple.
Il en a rattrapé quelques jours plus tard, mais il est...
Il est loin au classement
dixième,
général.
Je crois à peu près 11e.
Au général, effectivement, pour l'instant, Guillaume Martin est 10e à 8 minutes 2. Donc il est loin, à mon avis. Top 10 objectif. Après, on verra ce qui se passera.
Et qui pour contester la victoire à Carapaz?
Alors pour l'instant, du coup, 14e étape, on a eu droit à une belle étape de montagne gagnée par Simon Yates, celui qui était très loin au général. Il avait perdu 10 minutes sur une des premières étapes, notamment l'étape de l'Etna. Il a gagné cette étape, mais les deux qui se sont détachés et qui sont neutralisés, c'est Jane Day et Richard Carapaz, qui sont tous les deux pour l'instant en tête du classement général avec seulement 7 secondes d'écart. Derrière, João Almeida est à 30 secondes, Mikel Landa à 59 secondes, donc ça reste quand même très serré surtout qu'Almeida est quand même plus spécialiste du contre-la-montre que Hindley Carapaz, donc là où il pourra reprendre sur la dernière étape le fameux contre-la-montre de fin qui arrive à Milan. Mais voilà, pour l'instant c'est vraiment les trois qui se détachent. La 15e étape c'était hier et c'était la victoire, une nouvelle étape en montagne, la victoire de Ciccone, l'Italien, qui a été très ému à l'arrivée à Turin. Carapaz, tous les favoris se sont aussi évidemment neutralisés. Les grosses étapes de montagne arrivent, faut pas se cacher. La dernière semaine va être très déterminante, avec déjà demain, avec notamment, on aura le droit au Mortirolo. Hein, pour dire, c'est quand même une très grosse montée avec l'arrivée à Aprica, donc encore une belle étape de montagne. Encore après demain avec le Cava, à l'arrivée à Cavanerone et le Monte Verore qui sera aussi une grosse montée et tout. Et la fameuse dernière étape de montagne qui sera l'avant-dernière étape, où on aura le droit notamment au Passo Rosé, qui est un col hors catégorie. Seul col hors catégorie de cette dernière semaine, qui va sans doute faire beaucoup de mal, et qui avec l'arrivée à Ramoladan, donc on verra ce que ça donne, les fameux contre la montre de fin. Donc en tout cas, on s'annonce une grosse dernière semaine, ouais, avec une grosse bataille entre Richard Carapaz, Jay Hindley et Joao Almeida.
On suivra Jay Hindley, hein, on le rappelle, qui il y a deux ans dauphin de Tao Gegenhardt sur le Giro, qui pourrait cette année s'imposer. Allez, on parle de rugby, c'était l'avant-dernière journée de Top 14, avec les résultats s'il vous plaît.
Exactement, on a le droit à l'avant-dernière et on a le droit notamment, c'était une victoire importante des Toulousains à Brive, une victoire qui s'est dessinée assez facilement, hein, malgré le carton rouge de Charlie Fomina à la 17e minute de jeu pour un déblayage dangereux. Ils se sont imposés 26-8. Alors à un moment, à la fin du match, on y a eu ce fameux moment de 14 secondes où ils ont joué à 15 contre 15 malgré l'expulsion. Des erreurs au niveau des changements, deux personnes sont rentrées, un seulement est sorti. Brive a voulu au début contester, mais dans tous les cas, la seule période qui aurait été rejouée, c'est entre la 73e et la 20e. Toulouse menait de 20 points, donc ça aurait été pas servi grand-chose. Ils ont fameux retiré cette réclamation. Donc Toulouse s'impose 26-8 avec un très bon...
Qui assure son play-off. Hein.
Qui assure... Alors, c'est pas encore totalement fait, hein, parce que Toulouse n'est que 2 points devant Toulon et du coup 3 points devant Lyon, donc ça va serrer. Mais ils jouent Biarritz, dernier match à domicile, ça devrait le faire. Biarritz qui est déjà qui est relégué, donc ça devrait le faire.
Le RCT qui maintient le suspense quant à sa qualification possible pour les playoffs et une victoire bonifiée face à Pau.
Exactement, une victoire 37-20. On a eu le droit du coup une belle victoire des Toulonnais qui reviennent en cette fin de championnat et qui du coup sont 7e juste derrière les Toulonnais. Ils auront leur destin entre les mains, ils joueront au Racing.
Oui, une victoire face au Racing et c'est les playoffs pour le RCT.
Exactement, donc Toulouse qui a finalement son Toulon à son destin entre les mains. Parmi les autres qualifiés, La Rochelle, du coup, eux se sont imposés et pour l'instant continuent d'espérer de se qualifier, mais bon, sont bien partis en étant 4e avec 67 points. Ils s'imposent face au Stade Français 32-13. L'autre équipe qui s'est qualifiée, c'est l'Union Bordeaux-Bègles avec sa victoire 42-10 au Loup. Montpellier s'est imposé face au Racing 22-13. Ils continuent d'assurer leur place en tête de ce championnat.
Et Castres qui bat Perpignan 28-12.
Exactement, et donc eux aussi pour l'instant qualifiés.
Ouais, et ce week-end, ça sera les finales à Marseille. Hein. D'un côté, Leinster, vendredi, Toulon-Lyon. Et le lendemain, le samedi, ça sera Leinster...
La Rochelle.
Et pour La Rochelle, Vito et Skelton sont incertains pour la finale.
Ce qui va être compliqué. Enfin, ce qui sont deux éléments importants du côté des Rangelais.
Un petit mot de Fédéral 2, puisque Nantes se déplaçait à Bergerac pour le premier match, et une défaite 33-17. Match retour qui aura lieu au stade Pascal Laporte le 5.
Un mot de golf avec un majeur ce week-end, le PGA Championship, Charles.
Exactement, c'était l'US PGA et on a eu le droit à la victoire de Justin Thomas, du coup l'Américain qui s'est imposé en playoff face au jeune Will Zalatoris, autre Américain. Les deux étaient à moins 5, mais en playoff, c'est Justin Thomas qui s'est imposé. Du coup, nouveau titre pour lui sur le tournoi, sur le PGA Tour. Il s'impose du coup, notamment du coup, comme je l'ai dit, devant Zalatoris, et c'est le Chilien Muto Pereira qui finit 3e.
Toujours pas de victoire pour notre ami.
Non, il n'était pas qualifié.
Paul Barjon,
merci.
Est-ce qu'on a d'autres infos à donner à nos auditeurs?
Moi, j'en avais juste une petite de handball que je n'avais pas vue et ça me fait bien plaisir. C'est le retour d'Amandine Lénaud, notre légendaire gardienne de l'équipe de France, qui revient.
Qui quitte Guior, alors?
Oui, elle quitte Guior. Hein, c'est la fin de sa carrière. Elle finit à la fin du mois, hein, donc en lui souhaitant de gagner la
Champions.
La Champions. Et elle revient au club de Bourg-de-Péage, donc dans la Drôme, pour être entraîneur des gardiens. Mais elle sera peut-être obligée de jouer parce que, en fait, Il y a Cindy Champion, Alexandra Donacimento, Camille Depuisé, la gardienne, Léna Granvaux, la future nantaise, Diana Ukic, Martha Mangue, Manon Wett, que tu aimes beaucoup, et Sophia Dean qui quitte le club. Autant vous dire que le club, qui est co-présidé par Grégory Anctil, et entraîné par Camille Comte, aura beaucoup de travail pour recruter.
C'est certain. Bon, on a été complet sur l'actualité sportive. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure. À bientôt.
Bientôt, bonne soirée.
Salut à tous.
Bonne Ligue des Champions.